Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vous propose simplement, parce que nous allons parler de choses spirituelles. Et donc nous allons commencer par invoquer l'Esprit Saint, parce que c'est lui le véritable enseignant. Il demeure en notre cœur, le jour de notre baptême. Et le langage de Dieu, comme dit la petite Thérèse de Lisieux, c'est le silence. Donc c'est dans le silence de notre cœur que nous invoquons l'Esprit Saint. Depuis le mystère de l'incarnation que nous avons célébré à Noël, l'Esprit Saint ne fait rien sur la Sainte Vierge. Nous demandons à Marie qu'elle nous rende docile au souffle de l'Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Lambert,
priez.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
priez.
Bienheureuse Louis et Zélie Marthe. Oui, parce qu'à Lisieux, il n'y a pas un seul saint, mais maintenant il y en a trois. Depuis 2008, il y a Thérèse et ses bienheureux parents, Louis et Zélie Marthe. Il y a une dizaine de jours, j'étais à Orléans pour faire une conférence sur les bienheureux Louis et Zélie, précisément. Si je ne parle pas assez fort, il faudra me le dire. J'ai un petit défaut, c'est que je parle souvent sur le ton de la confidence. Et donc, on a quelquefois un peu de mal à me suivre. Donc, ce soir, c'est le premier entretien d'une série qui en comprendra plusieurs sur l'oraison pour un petit peu vous sensibiliser à ce qu'est l'oraison. Je commencerai par citer le bienheureux Jean-Paul II, qui, le 29 septembre 1982, lors d'une audience du mercredi, sur la place Saint-Pierre, il disait ceci. Plus de gens qu'on ne le croit seraient capables de faire oraison, mais personne ne leur a. Or, sans cette intériorité, les baptisés s'essoufflent, leur action devient symbole sonore, et même leur pratique religieuse, quand elle existe, se dessèche. Pape ne va pas par quatre chemins. Il nous invite à faire oraison. Alors le mot peut nous sembler un peu barbare, parce que ce n'est pas un mot du vocabulaire habituel. Et on pourrait se dire, oui, mais l'oraison, c'est bon pour les mystiques, c'est bon pour les moines et les moniales qui n'ont pas autre chose à faire derrière les grilles de leur monastère. Eh bien non. L'oraison, c'est pour tout le monde. L'oraison, c'est le mouvement essentiel de la grâce de notre baptême. L'oraison, c'est la prière. Et cette, il y a évidemment de multiples manières de prier, il y a plusieurs modes de prière. Et ce qu'on appelle la prière d'oraison, c'est davantage la prière du cœur à cœur avec Dieu, dans le silence. Et le premier qui nous l'a enseigné, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Figurez-vous. Chapitre 6 de Saint Matthieu, texte que l'on entend en particulier le jour du mercredi des cendres. L'aumône, le jeûne, de la prière et le jeûne. Et à propos de la prière, Jésus dit, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. C'est Donc il y a un mouvement d'intériorité, rentrer dans la chambre. De quelle chambre s'agit-il? Oui, ça peut aller dans la chambre, au sens où la pièce puis reculer de la maison. Mais c'est surtout la chambre intérieure. La chambre intérieure du cœur. Fermer sur soi la porte, c'est-à-dire faire le silence intérieur, le silence extérieur, mais aussi le silence intérieur, et prier, c'est-à-dire rencontrer le Père par le Fils et dans l'Esprit, car toute prière est unique. Dieu est unique, il n'y a qu'un seul Dieu, même si les personnes sont distinctes. Et on va toujours au Père par le Fils et dans l'Esprit. Et donc, établir cette relation avec Dieu qui est en nous. Moi j'ai établi cette relation avec Dieu, et le Père me le rendra, et Dieu me le rend. C'est une action de Dieu. Au 7e siècle, la Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel, est la première femme à avoir eu l'honneur de recevoir le titre de docteur de l'Église en 1970, par Paul VI. Thérèse d'Avila disait, par cause de l'oraison, de la prière, de la prière mentale, n'est à mon avis qu'un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. Jésus n'est pas dit, il n'est pas employé le mot amour, mais le fait d'employer le terme père dit bien que c'est une relation d'amour. Le Père lui-même nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Il est clair qu'il s'agit de cette relation d'amour. Alors c'est vrai que tout au long de ces enseignements, sera fait de référence au maître du Carmel. Parce que c'est un peu les maîtres du Carmel qui n'ont pas la propriété de l'homme, parce qu'elle est pour tous. Mais c'est un peu la mission du Carmel de nous rappeler cette réalité de l'intériorité et de nous y conduire sur une voie. Et je rappelle que Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux sont tous les trois docteurs de l'Église. C'est-à-dire que ce qu'ils enseignent n'est pas réservé à la seule forme du carmélitaine, mais c'est pour tous. Et que chacun décidera ce dont il a besoin. Donc voilà, le réseau, c'est cet échange. Thérèse d'Avila emploie le terme commerce au sens du 16e siècle, justement au sens de l'échange. J'échange avec Dieu. Mon partenaire et c'est un échange d'amour. J'aime et je suis Dieu. Car c'est ça qui importe le plus pour Dieu. Bien avant d'aller à la Saint Bernard au 2e siècle, il disait quand Dieu t'aime, il ne veut rien d'autre que d'être aimé. Bien l'oraison, échange d'amour avec ce Dieu et dans la solitude, seul à seul, cœur à cœur. Et souvent, il ne faut pas que ce soit simplement une fois tous les 36 mois, il faudrait que ce soit quotidiennement. Et d'ailleurs, l'Indienne Jean-Paul II disait dans une autre audience, il est interdit que pas un jour ne passe sans que vous ayez prié au moins un peu. Dieu est en cela. C'est la première, j'allais dire, raison de notre existence. Dieu nous a créés pour que nous établissions avec lui cette relation. Ce n'est plus loin de la terre, mais d'abord pour que nous établissions avec lui cette relation d'amour. Et on en a un exemple dans le livre de la Genèse, lorsqu'Adam se cache après avoir mangé le fruit, il n'est pas très fier. Et Dieu m'appelle, où es-tu? C'est pas où es-tu, parce que je te gronde. Dieu m'a fait, parce que mon père cherche ses enfants pour leur bien. Mais où es-tu, puisque je te fais pour moi, pour établir cette relation d'amitié et d'amour avec moi. Mais avons-nous le désir de le faire? C'est un problème. Avons-nous le désir d'établir cette relation d'amour avec Dieu? Croyons-nous que Dieu nous aime et qu'il attend, qu'il nous attend dans son cœur à cœur? Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples, leur a-t-il enseigné la prière? Pourquoi leur a-t-il enseigné le pater, la plus belle des oraisons? Sainte Thérèse d'Avila, dans un de ses traités, le chemin de la perfection commente largement chacune des demandes du Père. Parce que ses disciples lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils le voyaient prier. Jésus faisait pour raison, figurez-vous. Aussi curieux que cela paraît. J'ai fait quelques références. Quand il dit dans les évangiles de Matthieu, chapitre 14, Marc, parallèle à Marc, chapitre 6, et Jean, chapitre 6, Jésus gravit la montagne pour prier. Alors dans la Bible, on rapporte que la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. En Luc, chapitre 5, Jésus se retire dans les endroits solitaires pour prier. Je me retrouve plusieurs fois. Et il est accueilli sur le roi aussi. Comment est-ce que le Seigneur s'apprête à faire quelque chose, à prendre une décision ou à faire quelque chose d'important, il est toujours mentionné qu'il prie. Quand il est configuré, Jésus est en prière sur le tableau. Donc Jésus va éprouver le besoin, en tant que Père incarné, en tant qu'homme, d'établir cette relation avec son Père qu'il a éternellement dans le ciel. Car éternellement dans le ciel, le Père et le Fils ont cet échange d'amour. Et c'est de cet échange d'amour que je suis la femme de l'Esprit Saint. La Jean dit dans son prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers lui. Le Verbe en regardant le ciel. Contempler le ciel. Et bien faire en réponse est aussi contempler. Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte une histoire de contemplatif? Ça encore, c'est bon pour les moines et les moines. Est-ce que vous êtes jamais arrivé, frères et sœurs, lorsque vous êtes devant un beau paysage ou un des beaux monuments de Paris, par exemple, de le regarder et de presque vous laisser happer par la beauté? Et établir une relation avec l'objet que l'on contemple. Et c'est dans la prière, c'est la suprême beauté, le plus beau des enfants des hommes, comme dit dans le psaume 44. C'est Dieu, c'est Jésus, et Dieu lui-même à la vérité, parce que c'est toujours par Jésus et dans l'esprit que nous devenons le faire, que nous sommes amenés à contempler. La petite Thérèse a elle aussi sa définition de l'oraison, de la prière. Elle appelle la prière, elle parle aussi de l'oraison. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte de Thérèse, que je vais dire maintenant, Thérèse de l'Enfant Jésus, a été repris dans le catéchisme de l'Église catholique, au début du chapitre sur la prière. Ce qui est dommage, c'est qu'il manque la dernière phrase, parce que c'est la plus importante. Qu'est-ce que dit Thérèse de Lisieux? Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, voilà la phrase qui manque dans le catéchisme. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dégarde l'âme et m'unit à Jésus. Voilà le but de la prière, de toute forme de prière, que ce soit pour elle, que ce soit la récitation du chapitre, que ce soit la prière du premier, que ce soit n'importe quelle forme de prière personnelle ou communautaire, que ce soit l'Eucharistie, le but est d'être uni, sinon c'est pas la peine. Un élan du cœur, en disant un élan du cœur, c'est elle, Jésus me rappelle bien que la prière, le réseau, c'est d'abord un mouvement de l'amour. Dieu m'a créé par amour. Il a mis en moi des capacités d'aimer naturellement dans mon être naturel d'homme. Mais par la grâce du baptême, il m'a donné ce moyen surnaturel de la grâce, qui est participation à la nature divine, et donc qui est amour comme Dieu, et qui n'a qu'un désir, c'est de retourner vers ses sources. Cet élan du cœur. Et en même temps, dans cet élan du cœur, il y a ce désir de Dieu. C'est fondamental dans toute forme de prière, et particulièrement dans le réseau, mais c'est fondamental dans notre vie spirituelle, dans notre relation à Dieu, le désir de Dieu. Avons-nous le désir de Dieu? Sommes-nous capables, comme les psalmistes, de dire « Dieu, toi mon Dieu, mon âme a soif de toi. Après toi, l'envie de la chair, qu'elle sèche, qu'elle défonce. Meilleur que la vie, ton amour. » Sommes-nous capables d'exprimer ce désir? Il faudrait le laisser jaillir de notre cœur. Il faudrait laisser l'Esprit Saint, le sujet d'ailleurs de la suivante, de l'entretien suivant, c'est laisser la place de l'Esprit Saint dans la prière, laisser l'Esprit Saint pousser comme les symboles ces gémissements inénarrables. Nous entraîner dans le désir de Dieu. Et le désir suppose l'amour, car je ne désire pas ce que je n'aime pas. Et dans les cœurs, simple regard jeté vers la vie. La simplicité, elle est nécessaire dans le raisonnement. Ça n'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, mais je suis là devant Dieu, je suis pourquoi dire au bon Dieu. Ben, lui dites rien. Et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, un jour, une sœur, alors qu'elle était à la fin de la vie de Thérèse, elle était malade à la fin de la vie, et elle était en silence, et elle était en train de prier, avant de le faire. Et une sœur de Carmel, elle retient qu'elle est partie de prier, elle dit, qu'est-ce que vous dites, ma sœur, au bon Dieu? Et elle fait un regard, elle dit, moi, je lui dis rien. Je l'aime. Voilà, cet élan du cœur. Et cette simplicité, et même si on peut dire des choses, c'est bien possible de dire dans des choses, mais c'est pas la peine de se compliquer l'existence. Thérèse a l'air d'exprimer quand elle dit je n'ai pas. Je n'ai pas le courage de ma tête à chercher dans les livres de belles prières. Cela me fait mal à la tête. Il y en a tant. Et puis, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne saurais les réciter toutes. Et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Étonnant. La simplicité avec Dieu. À son frère spirituel, Maurice Bélière, qui est une âme un peu tourmentée, un peu inquiète, elle dira, je voudrais que vous soyez simple avec Dieu. Et comme elle manque d'humour, elle ajoute, et avec moi aussi. la simplicité. Dieu aime la simplicité. Preuve. Quand il vient sur la terre, quand il s'incarne, c'est dans la simplicité de la petite bourgade de Nazareth dont il n'est jamais rien sorti de vous, puisque le mystère d'incarnation lui a eu lieu là, quand il s'incarne dans le sein de Marie. Quand il naît, c'est dans la simplicité d'une grotte, d'une étable. Il y a la simplicité aussi des 30 années de vie à Nazareth. Vie ordinaire, vie de simplicité. Le bon Dieu aime la simplicité. Parce qu'il est simple. C'est nous qui sommes compliqués. Donc être simple, simple regard. Donc ne pas avoir peur de le regarder. Oh, mais je ne suis pas un grand saint. Regardez-le. Dans un très beau passage de ses écrits, Thérèse se comparera à un petit oiseau. Mais elle dit qu'elle n'est pas un aigle comme sont les saints, non. Elle a les yeux et le cœur de l'aigle. La grâce. Et puis les yeux de la foi et le cœur de l'amour. Et donc elle peut, malgré sa petitesse, fixer le soleil divin de l'amour, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et bien voilà ce regard jeté vers le ciel. Le ciel, c'est Dieu. Pour Thérèse, le ciel, c'est Dieu. Pour Thérèse, elle n'imagine pas du tout le ciel comme une salle du trône où on est plus ou moins près de la majesté divine en fonction de notre degré de sainteté. Le ciel, c'est être plongé en Dieu. C'est Dieu lui-même qui est notre récompense. Et donc ce simple regard jeté sur Dieu, ce simple regard, c'est une raison authentique. Vous entrez dans une église et vous vous mettez à regarder le tabernacle. Dans le silence, eh bien, si vous le faites avec foi, avec espérance, avec amour, le contact de raison se réalise. Témoin, l'abbé Jean-Marie Vianney, curé d'art, voyait chaque jour un brave paysan entrer un petit moment dans son église, et puis venir en silence maintenant, devant le tabernacle. Et un jour, l'abbé Vianney va tomber. Mon père chef argent, et lui dit, mais chef argent, qu'est-ce que vous faites là? Et le brave paysan regarde son curé, et puis il montre le tabernacle. Et il dit, je l'ai vu, et il m'a vu. Je le regarde, et il me regarde. Et bien voilà une oraison authentique d'un brave paysan, probablement il est très calme, mais encore des années. Pas nécessaire de sortir d'une grande école ou d'être docteur en philosophie ou dans tout ce que vous voulez. N'importe qui peut faire un rêve. Et n'importe quel baptisé peut faire un rêve. Et regardez dans la simplicité de ces gars. Un simple regard jeté vers le ciel. Et le plus souvent, dans le ciel. Regarde, être un regard de foi. Je vous dis tout de suite, on reparlera de la foi dans un autre entretien, parce que la foi est capitale, précisément parce que je ne vois pas. Et c'est la foi qui me fait prendre contact avec Dieu. Et la foi, je l'ai reçue en la tête. Elle fait partie de mon organisme surnaturel, pour que je l'éclaire, pour que je l'enferme. Un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Ce cri, ce chant, est-ce qu'il peut être silencieux? Ce que la petite Thérèse appelle toujours par « Je chanterai vos miséricordes éternellement, Seigneur, vous me réjouissez par tout ce que vous faites. » Quand elle dit ça, elle est dans l'épreuve de sa tuberculose qui va l'emporter, et surtout le combat de la foi dans les 18 derniers mois de sa vie. Donc elle traverse son chemin de croix, évidemment son calvaire, et pourtant elle dit « Vous me réjouissez, Seigneur, par tout ce que vous faites, c'est absurde. » Ce cri de reconnaissance et d'amour, tout vient de l'amour de Dieu. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et qui m'unit à Jésus. quand l'âme, quand nous faisons oraison, quand nous mettons en prière, quand nous prenons vraiment contact avec le Seigneur par la foi, dans n'importe quelle forme de prière que ce soit, y compris la Sainte Eucharistie, eh bien, on s'unit à Dieu. Comme la goutte d'eau s'unit à l'océan. Thérèse avait employé cette expression pour sa première communion. Et le curé d'Ars l'emploie lui aussi pour la communion, mais aussi pour la prière. On est comme la goutte d'eau qui se perd dans l'océan. La goutte d'eau, elle peut s'unir à l'océan, parce qu'elle est de même nature que l'océan. Et en moi, depuis mon baptême, j'ai quelque chose de divin. La grâce, baptismale, participation à la nature divine. Je peux donc m'unir à Dieu. Et c'est ça le plus important. Et Dieu se donne. Dieu se donne, parce que ce qui m'unit à Jésus, je touche Jésus par ma foi, et Dieu se donne. On aura l'occasion de le rappeler plus longuement quand on verra le chapitre sur la foi. Et Dieu a de la joie à se donner. C'est sa joie, sa plus grande joie, c'est de se donner à nous. Et de faire grandir en nous ce germe de sainteté qu'il a mis au jour de notre baptême. Parce que je vous rappelle, frères et sœurs, que notre vocation, c'est une vocation à la sainteté. Ça ne veut pas dire qu'on sera canonisé, ça c'est réservé à quelques-uns. Et puis comme dit la petite Thérèse, non sans humour, rien n'indique que les saints canonisés soient les plus grands. Dieu les a mis en relief pour sa gloire et notre édification plus que pour eux-mêmes. Donc ça nous laisse beaucoup d'espérance. Et puis je rappelle que de toute façon dans le ciel il n'y a que des saints, canonisés ou non, mais il n'y a que des saints. C'est-à-dire ceux qui se laissent sanctifier par Dieu parce que c'est Dieu qui fait les saints. Eh bien, nous, on ne se sanctifie pas à la force de son poignet, même à coup de vertu, même s'il faut pratiquer la vertu, même s'il faut montrer notre bonne volonté en vivant les commandements de Dieu et en gardant la parole de Dieu et en la vivant. C'est Dieu qui nous sanctifie. Et tous les moyens de sanctification, Dieu les utilise, et l'oraison est un moyen de sanctification. Tout contact avec Dieu nous sanctifie. Sainte communion, l'Eucharistie nous sanctifie. La grâce du pardon dans le sacrement de réconciliation nous sanctifie. L'oraison nous sanctifie. Normalement, quand on a prié, on est un peu plus sain qu'avant. Alors, on devrait. Et encore, ça ne se mesure pas, ça ne se quantifie pas. Et je vais vous dire une chose, mais plus on s'approche de Dieu, et plus on voit la distance qu'il y a entre lui et nous, et plus on se sent pauvre et pécheur. Je rappelle la petite Bernadette qui, au moment de sa mort, récite « Je vous salue Marie » en répétant la première phrase « Priez pour moi, pauvre pécheresse, pauvre pécheresse. » Et oui, parce que Dieu seul, mais il est la source de la sainteté. Je suis saint. Moi qui vous sanctifie, nous dit-il dans le livre du Lévitique. Donc la prière, ça va être l'oraison, ça va être ce simple mouvement de notre être, de notre part, et cet échange d'amitié et d'amour que l'on va établir avec le Seigneur. Le cœur à cœur. Je puis tout obtenir lorsque dans le mystère, je parle cœur à cœur avec mon divin roi. Cette douce oraison tout près du sanctuaire, voilà mon ciel à moi. Chante Thérèse dans l'un de ses poèmes. Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une particularité des saints du Carmel d'avoir composé des cantiques, des poèmes. Thérèse de Lisieux, mais aussi Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux. Et d'autres. Et ils avaient de la Trinité, encore. Donc je puis tout obtenir lorsque dans le mystère. Le mystère, c'est-à-dire dans le silence. Car ça, c'est une caractéristique de leur raison de silence. On a besoin de ce silence. On vit dans un monde de bruit. Saint Jean de la Croix dit, c'est dans le silence que Dieu prononce son Verbe, son Fils, qui nous le donne. Et c'est dans le silence que l'âme reçoit cette parole de Dieu, Verbe. Donc on a besoin de silence. Je puis te dire que dans le mystère, dans le silence, dans l'obscurité de la foi aussi. Lorsque je parle cœur à cœur, dans une lettre à une de ses sœurs, elle me dit, oh, moi je ne vois pas le sacré-cœur comme tout le monde. Je pense que le cœur de Jésus, de mon époux Jésus, est à moi comme le mien est à lui. Et puis, je lui parle dans ce délicieux cœur à cœur de la prière. Je lui parle, mais parfois je lui parle sans prononcer de parole. L'élan du cœur et du regard de la foi est déjà une expression. Ceux qui ont la grâce d'être mariés et de s'aimer, les époux, savent bien souvent qu'un regard en dit bien plus long qu'une parole. Et avec le bon Dieu, c'est la même chose. Quel est le fondement de la prière et de toute notre vie spirituelle? Eh bien, devant ce que j'ai dit, cette présence de la grâce en nous, plus exactement, d'avoir la présence de Dieu en nous, nous sommes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Paul nous le dit dans les titres de Corinthiens. Ne savez-vous pas que le corps est le temple de l'Esprit Saint, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et cet esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il répand l'amour. Et c'est fondant notre espérance. Romains 5, l'espérance ne déçoit point, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Esprit nous est donné, Dieu habite en nous, nous sommes le temple de Dieu, la demeure de Dieu. Et il répand en nous son amour, c'est-à-dire sa parole. La petite Thérèse, dans un autre de ses poèmes, dit « Le Dieu caché des tabernacles qui se cache aussi dans nos cœurs. » Ce qui fait que je peux prier partout. Pas nécessaire de courir dans une église ou une chapelle. Même sur une île déserte et même sur une autre planète. Mais je peux prier puisque Dieu est en moi. Sainte Thérèse a dit là, sans humour, nous disait, si j'avais su quel palais était mon âme et quel eau demeurait, jamais je n'aurais été si souvent tout seul. Et ça, elle fait référence à la parole de Saint-Augustin, je te cherchais au dehors et tu étais au dedans. La petite Thérèse, en écoutant une lettre de Céline, écrit, quel bonheur de penser que le bon Dieu, la Trinité tout entière, nous regarde. Qu'elle est en nous et se plaît à nous considérer. Mais parce que le regard de Dieu, je regarde Dieu, mais Dieu me regarde. Je l'admire et l'admire. Dieu ne travaille pas à la chaîne, comme nous. On fait un prototype et puis on sort 100 000 objets identiques, enfin, soi-disant identiques. Dieu il travaille à l'unicité. Dieu étant unique, il travaille à l'unicité. Chacun de nous est unique et chacun de nous est aimé personnellement. C'est fondamental si on veut s'approcher de Dieu, de se le dire, puisque l'oraison c'est précisément s'approcher de ce Dieu dont on se sait aimé. Et chacun de nous est aimé personnellement. Et la façon dont Dieu m'aime n'est pas celle dont il aime le voisin. Un jour, la petite Thérèse, la petite c'est le cas, elle était encore enfant, se demandait, mais comment ça se fait que le bon Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Et sa sœur Pauline lui a dit, mais si, je vais te montrer. Donne-moi ton petit dé à coudre. Et puis va chercher le grand verre à papa. Une espèce de pinte de, non, de, pas de bière, mais de cidre. Comme Normandie, on boit du cidre. Et Pauline est remplie tous les deux d'eau jusqu'à ras-bord. Dis lequel est le plus plein? Ils sont tous les deux pleins. Chacun a ce qu'il a. Et ce qui convient parfaitement au petit dé ne serait pas suffisant pour le grand verre, mais ce qu'il y a dans le grand verre serait présent pour le petit dé. Thérèse reprend l'idée avec en comparant les âmes à des fleurs, c'est-à-dire qu'elle aimait beaucoup les symboles et la nature, et elle dit les âmes, ce sont les fleurs du jardin de Jésus. Il y a des roses, il y a des lys, des grandes fleurs, des belles fleurs, mais il y a aussi des petites pâquerettes et des violettes. Eh bien, celles-là doivent se contenter d'être des pâquerettes et des violettes, elles sont simplement destinées à réjouir le regard du bon Dieu lorsqu'il l'avait à ses pieds. La perfection consiste à être ce que le bon Dieu aime. Et ça ne veut pas dire que le bon Dieu aime plus le lys que la pâquerette. Non. Il aime le lys comme le lys. Il aime la rose comme la rose. Il aime la pâquerette comme la pâquerette. Pleinement, ni plus ni moins. En plénitude. Eh bien, justement, nécessaire quand je m'approche de Dieu et quand je me mets en présence de Dieu pour la prière, pour nos raisons, que je me dise je suis aimé. Je ne le sens pas, c'est vrai. Je ne le vois pas, c'est vrai. Je ne le touche pas, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas réel. Cet amour est réel. Et donc dans la prière, je vais me mettre en mouvement. Vers ce Dieu qui est là. Car le premier pas, c'est moi qui vais le faire. C'est pas Dieu qui le fait. Parce que lui, il est toujours présent, comme le soleil qui vient toujours. Et c'est à moi de me mettre dans sa recherche, en quête de Dieu. Et puis, d'essayer d'établir justement cet échange, ce caractère, ce dialogue. Qui consistera certainement à chevalier et humain. L'oraison est une prise de contact avec Dieu, écrit le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus Carme. Un échange de deux âmes. Celui que Dieu nous porte et celui que nous avons pour lui. Dieu est amour. Il nous a créés par amour. Il nous a rachetés par amour. Et nous destinés à une union très étroite avec lui, Dieu, amour, est présent dans notre âme. Il y est en activité constante d'amour, foyer répandant constamment sa chaleur, soleil ne cessant de diffuser sa lumière, fontaine toujours jaillissante. Pour aller à la rencontre de cet amour qui est Dieu, nous avons la grâce sanctifiante, de même nature que Dieu, par conséquent amour comme lui. Cette grâce qui nous fait ses enfants est une aptitude à l'union, à l'échange intime avec Dieu. Dieu amour toujours en action nous sollicite et nous attend. C'est notre amour qui doit aller vers lui. L'orientation de cet amour va vers Dieu. Sa recherche amoureuse, la rencontre de notre amour avec Dieu amour, l'échange affectueux qui s'établit aussitôt, voilà ce qu'est l'oraison. Dans un autre passage de son livre « Je veux voir Dieu », divin, en nous faisant tenir compagnie à la Trinité sainte qui habite en nous, l'oraison est sous le voile de la foi, déjà l'exercice de la vie du ciel. Autrement dit, quand nous prions, nous sommes au ciel. Puisque j'ai fait Dieu, nous le rencontrons. Mais évidemment, ce petit problème, c'est dans l'obscurité de la foi. C'est dans l'aridité, c'est dans, parfois dans la sécheresse. Qu'est-ce que je fabrique là? Qu'est-ce que je fais là? Je m'en ai appris. Et pourtant, il y a quelque chose au fond du cœur qui dit, mais non, il faut que je reste. Il faut que je reste. Mais ce que l'on ne perçoit pas, justement, c'est cette question. Parce que, à mon acte de foi, à mon acte d'amour, mon acte d'espérance, cette vertu de l'espérance qui est un don de Dieu, disait Béguet, eh bien, cet acte qui me met en contact avec Dieu réjouit le cœur de Dieu et Dieu se donne. Mais il se donne, et ce sont des choses très intimes et très secrètes au cœur de l'âme, dont nous n'avons pas. Que l'on ne perçoive pas, mais qui va ensuite se traduire dans le reste de notre vie, de notre vie. Parce que l'oraison est destinée aussi à allumer notre existence et le reste de notre vie. Je ne suis pas chrétien simplement quand je prie ou quand je vais à la messe. Je suis chrétien à chaque battement de mon cœur, à chaque pas que je fais et dans toutes les activités que je fais. Quand je marche, quand je fais mes courses, quand je fais la cuisine, quand je suis à mon bureau, je travaille, c'est un chrétien. C'est un chrétien qui travaille. Le baptême a pris tout notre être. C'est tout notre être qui est Christ, qui est divinisé par la grâce. Et c'est irrémédiable. Ça ne peut pas s'enlever. On pourra bien arracher la page du registre des baptêmes, ça n'enlève pas le baptême, il est toujours là. Ça n'a pas la grâce qui est toujours là. Dieu ne reprend jamais ce qu'il donne. Et donc, nos raisons, les contacts avec Dieu, à la messe, au dominical, quotidien, plusieurs fois dans la semaine pour ceux qui ne peuvent pas, qui en ont besoin. Et puis surtout, ces contacts de la prière sont importants parce qu'ils vont nourrir notre vie spirituelle. Et nous nourrissons notre vie spirituelle, ça va nous aider ensuite à agir dans notre monde. En chrétien, en fils de Dieu, c'est dans la charité. Puisque le monde est en contact de Dieu, d'amour, pardon, avec Dieu, elle va nous remplir de l'amour divin. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas nécessaire de venir dans une église pour prier, on peut prier partout. On peut prier dans le train. Dans le lycée, c'est sûr, dans le train. On peut prier dans le métro aussi. Quand on a pris l'habitude, au début c'était un peu difficile de prier dans le métro, mais quand on a pris l'habitude de faire oraison, l'âme peut s'intérioriser dans n'importe quel lieu. Et justement, quand on prie, c'est une manière aussi d'être témoin et d'attirer l'amour de Dieu sur les autres. Quand on prie, au milieu de la foule, dans le métro, dans le train, sur la soie, n'importe, eh bien, le regard de Dieu descend non seulement sur la prie, mais déborde largement sur les autres. Sainte Thérèse met beaucoup cette parole qu'on trouve dans le cantique des cantiques. Attire-moi, nous. Si je me laisse attirer par Dieu, les autres courent derrière. Sans savoir. Elle dit, c'est le mouvement naturel adorant. Il se laisse attirer par l'océan, il va se jeter dans l'océan, et il entraîne avec lui tout ce qui remarque. Eh bien, l'âme qui prie, c'est comme le torrent. Il va se jeter dans l'océan sans rivage de l'amour qui est Dieu lui-même, expression que Thérèse aimait beaucoup, et qui entraîne avec lui tous les autres. ce que nous portons dans la prière, et le chrétien doit porter dans la prière tous ses frères, non seulement les membres de sa famille, ceux que l'on aime, etc., mais tous les autres. Parce que Jésus nous a fêté Noël bientôt, dans moins d'un mois maintenant, et il vient pour tous les hommes, symbolisé non pas par les bergers, et l'autre ensuite par les mages. Donc on veut prier partout. Une carmélite du XVIIe siècle avait dit: ô mon Seigneur, que je ne vous prie pas seulement de langue et de l'esprit, mais encore du cœur. Que je ne sois pas seulement dans la solitude et dans vos tabernacles, où la présence réelle de votre corps, jointe à celle de votre divinité, nous inspire de la dévotion. Mais faites, ô mon Dieu, que par des actes continuels de foi, d'espérance et de charité, j'accoutume mon cœur à devenir un oratoire, une chapelle, où en tout lieu et à tout moment je vous prie. Que le vrai chrétien ne fait pas seulement par la bouche et par la retraite, mais par son cœur et ses œuvres, et en toutes sortes de lieux et d'occasions. Donc nous pouvons toujours prier n'importe où. Qu'est-ce qui nous empêche, même au milieu de nos activités, s'arrêter pour 5 minutes et se mettre en présence de Dieu, pour une courte raison? Et là, l'âme est enrichie. L'oraison est un moyen par lequel nous entretenons avec Dieu un tout commerce, où nous gagnons les douceurs de sa connaissance et son amour produit d'ordinaire dans les âmes qui s'attachent à lui, et enfin le vrai canal par lequel il fait couler en nos cœurs les torrents de ses divines consolations et de ses grâces. Toute oraison augmente l'espérance et la confiance. Toute oraison enflamme la charité. Thérèse de Lisieux terminera son histoire d'une âme par ces mots: n'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François d'Assise, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui rase les plus grands génies? Un savant a dit: donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde, c'est ainsi que les saints comme méditants le soulèvent, et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. C'est l'oraison qui changera le monde. Ce ne sont pas les révolutions. C'est la prière, c'est Dieu, c'est l'amour, la charité. Et l'oraison rendra le monde feu de nous. Mais ce feu d'amour se donne, c'est l'amour que Dieu lui-même se donne à la mesure aussi de chacun. Jésus faisait oraison. La Sainte Vierge faisait oraison. Il nous est dit dans l'Évangile qu'elle gardait avec soi toutes choses dans son cœur et les méditait. Alors donc nous sommes invités à mettre ces temps de prière dans notre existence quotidienne. Encore une fois, si le mot raison nous fait peur, pense à la prière du cœur à cœur. Moi j'aime bien la formule de Thérèse, la prière du cœur à cœur. C'est bien ce que ça veut dire, ça échange d'amitié, ça échange d'amour avec celui qui, dont on se sait aimer, celui qui nous aime et que nous aimons, enfin que nous voudrions aimer. Tant que c'est possible, que ce soit possible. Jésus, je voudrais aimer les plus qu'il n'a jamais été aimé. Osez écrire la petite Thérèse de sa sœur Pauline. Et donc, c'est ce cœur à cœur qui est nécessaire et qui irrigue la terre sèche de notre cœur. On se désintègre, on va voir la source. Pas pour faire. Résalila, il a dit, ceux qui ne traiteront pas en chemin pourront, vous pouvez m'en croire, arriveront à boire de cette eau vive que le Seigneur promet. Celui qui croit en moi, qu'il vienne, celui qui a soif, celui qui croit en moi, qu'il vienne. Et qu'il boive l'eau de la vie. À la fois l'Évangile et dans l'Apocalypse. Alors, nous sommes invités à l'image des saints qui nous ont précédés et qui ont pratiqué cette prière du cœur à cœur, et bien aussi à essayer de la mettre un peu dans notre vie. Au moins, pour comprendre cette nécessité d'établir cette relation d'intimité avec le Seigneur. Et sans avoir peur de lui. Oh, c'est vrai, Dieu est le Dieu de toute justice et de toute sainteté. Mais il est aussi le Dieu de miséricorde. Tout l'enseignement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de nous avoir redécouvert la miséricorde, et après elle, Sœur Faustine, dans le même mouvement. Thérèse aura l'audace de dire, « Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. » Petit enfant de la crèche, petit au sens de humble, l'humble crucifié du calvaire, et dit-elle, là où il met le comble de son anéantissement, c'est dans le mystère de l'Eucharistie. C'est encore plus petit, une hostie. « Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit, je l'aime. Il n'est qu'amour et miséricorde. » Eh bien, on va essayer de vivre un petit temps d'oraison maintenant. Donc, dans le silence, dans le recueillement, j'aiderai en disant quelques paroles, soit des saints, soit de la Bible, soit de l'Évangile, pour nous aider à prendre contact avec le Seigneur. Mais surtout en restant, en essayant que vous soyez, puissiez être en silence. Alors, vous pouvez pendant ce temps, là, vous étiez un peu groupé pour le temps d'enseignement, mais vous pouvez un peu vous dispatcher dans toute l'église, hein, pour ne pas être collés les uns sur les autres, hein, et prendre un peu ce temps de recueillement.